Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Girafe Normandie. Je suis Frédéric, le F de Girafe. Dans le cadre de cette émission consacrée aujourd'hui aux langues et langages, j'ai le plaisir de recevoir un spécialiste d'une langue connu ou peu connu, Gabin Forcier, qui va nous parler de l'espéranto. Je rappelle que j'avais eu l'occasion, sur mes précédentes émissions, de recevoir un expert linguiste sur les langues et langages que vous avez pu écouter. Et aujourd'hui, donc, l'illustration porte autour de cette langue, l'espéranto. Gabin, très rapidement, tu es diplômé de l'EM Normandie, très engagé sur un autre sujet, qui est celui de la transition écologique, et notamment sur la préservation des océans dans le cadre d'une association qui s'appelle Bluetopia. J'aurais d'ailleurs pu t'interviewer sur ce sujet, mais ce ne sera pas le cas. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler, dans le cadre de mon émission, d'un mythe ou d'une réalité d'une langue s'agissant de l'espéranto. Gabin, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous et de nous éclairer, de nous apprendre des choses sur cette langue connue et mystérieuse à la fois. Donc ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Gabin, est-ce que tu peux... nous donner quelques mots, nous dire quelques mots déjà sur ton parcours.
Ouais, bien sûr. Donc moi, je suis diplômé de l'EM Normandie depuis pas très longtemps. Ça fait 6 mois que je suis diplômé.
Félicitations.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, petit fun fact, aujourd'hui, on enregistre cette émission, c'est la remise des diplômes. On est à Deauville. Et donc, ça sera officiellement le jour où je vais recevoir mon diplôme. Donc, ça me fait très plaisir.
C'est une grande journée.
Tout à fait.
Radio Girafe plus le diplôme de l'EM.
Exactement, exactement. Et donc, moi, j'ai fait mes études donc à l'EM Normandie en post-bac. D'abord 2 ans à Caen, puis 2 ans au Havre, entrecoupé d'expériences à l'étranger, notamment à Kuala Lumpur en expatriation. Et pour finir, une dernière année à Caen, un retour aux sources, on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Et donc, au cours de ma scolarité, j'ai été très impliqué dans la vie associative de l'école, à travers le Bureau des Arts, puis la Fédération des étudiants, et mm-hmm. enfin le Bureau national des étudiants en école de management, qui est un grand organisme qui permet de représenter tous les étudiants en école de management en France. Mm-hmm. Et donc ça m'a donné le goût de l'engagement, et ensuite j'ai poursuivi cet engagement à travers une cause que j'estime très nécessaire à la défendre, qui est la transition écologique de manière générale, et donc plus spécifiquement chez Bluetopia, donc à La Rochelle, où on fait des documentaires sur les liens entre l'alimentation et l'océan, et comment est-ce qu'on peut faire évoluer les imaginaires collectifs autour de notre alimentation, et comment est-ce qu'on peut la faire évoluer pour qu'elle soit moins impactante pour le vivant. Et donc c'est ce que je fais au quotidien chez Bluetopia.
D'accord. Mais... voilà, ton quotidien ne se limite pas à ça, même si le sujet est immense. Tu as donc cette passion, on peut dire ça comme ça,
ouais.
pour cette langue qui nous intéresse aujourd'hui, s'agissant donc de l'espéranto. Donc ma question est simple au sujet de l'espéranto, c'est comment tu l'as connue, cette langue ?
Ouais, alors je l'ai connu il y a maintenant un petit peu de temps, je dirais 7 ou 8 ans, où j'étais tombé sur une vidéo sur YouTube, comme beaucoup de jeunes, je m'informe sur YouTube et j'apprends beaucoup de choses sur YouTube, et j'étais tombé sur une vidéo qui parlait de l'espéranto, qui était très bien construite, d'une chaîne YouTube qui s'appelle Linguisticae, qui parle de linguistique.
D'accord.
Et donc ça m'a interpellé, je me suis dit, waouh, une langue qui permet de rassembler ou de faciliter la communication entre les peuples partout dans le monde, une langue qui n'appartient à personne.
Et à tout le monde à la fois, en fait.
Et à tout le monde à la fois.
On est bien d'accord, c'est une langue qui a une vocation universaliste.
Tout à fait. C'est une langue qui a été pensée pour porter pour être apprise déjà par tout le monde. On pourra en parler un petit peu sur sa construction après, mais qui facilite l'apprentissage, et donc qui peut être appris par tout le monde, et qui est facilement utilisable, et qui n'appartient pas à un pays ou à un peuple.
Ouais.
Et donc moi, ça m'a parlé, et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, waouh, j'ai envie d'apprendre cette langue. J'ai fermé l'ordinateur. Et je suis parvenu pendant 4 ou 5 ans au moins.
Mm-hmm.
Mais par contre, ça a toujours
cheminé dans ma tête,
ouais. Exactement. Mm-hmm. J'avais cette petite lumière qui me disait, tiens, l'espéranto, un jour, j'aimerais en faire quelque chose. Mais je ne savais pas trop quoi. Et donc, dans le cadre de mon cursus à l'EM Normandie, entre mon Master 1 et mon Master 2, j'avais l'opportunité de faire une césure.
D'accord.
Et donc, j'ai décidé de faire la première partie à la French Tech au Havre, dans la cité numérique, où j'accompagnais des startups à se lancer. Et la deuxième partie, j'avais envie de partir un peu à l'aventure. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais envie d'avoir un fil conducteur sur cette aventure, partir en Europe, parce que c'est un continent qui est proche qui est proche de la France, qui est facilement accessible et en même temps qui a plein de choses
plein de richesses finalement et de différences interculturelles. D'ailleurs, je le rappelle, on a une émission, j'ai eu l'occasion de faire une émission qui est encore en podcast sur notre site pour ceux que ça intéresse, justement sur l'interculturel et l'interculturalité, et que les différences interculturelles ne sont pas à aller chercher forcément à des milliers de kilomètres, elles sont juste peut-être de l'autre côté de la frontière, et c'est ça qui est intéressant.
Et donc, j'avais cet objectif de partir en Europe, mais je voulais trouver ce fil conducteur. Et en fait, petit à petit, c'est arrivé en disant, bah tiens, en fait, c'est peut-être le bon moment. L'espéranto, je peux en faire quelque chose. Et donc ça, c'était entre 6 et 8 mois avant de partir, à peu près, un petit peu plus. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant, c'est le moment de construire un projet autour de l'espéranto, en partant autour de l'Europe. Et donc, j'ai commencé à apprendre cette langue. Sur internet.
Techniquement, ça s'apprend comment ? Est-ce qu'il y a des cours, des profs où on peut l'apprendre tout seul ?
Ouais, alors comme toutes les autres langues, la seule différence c'est qu'on peut pas aller dans un pays en disant je vais m'immerger dans la culture allemande et je vais apprendre l'allemand. Mais autrement, ça se passe pareil. Il y a des bouquins, il y a des profs, des personnes qui sont prêtes à enseigner la langue. Et donc moi, dans mon cas, j'ai commencé à apprendre seul sur internet avec des sites. Comme on peut l'avoir pour l'anglais, pour l'allemand, pour l'espagnol. Et ça m'a permis de rencontrer des personnes qui étaient prêtes à passer une heure par semaine avec moi en visio pour me donner des cours d'espéranto. Et ça m'a permis de me lancer, de me sentir un petit peu plus en confiance avec la langue. Avant de partir, j'avais un niveau, on va dire, qui était moyen. J'avais un niveau qui me permettait de comprendre ce que les personnes me racontaient et de moi m'exprimer. J'étais pas bilingue du tout, mais en fait la langue est construite d'une telle manière qu'elle est très régulière, très simple à apprendre.
Oui, alors c'était une question qui me venait à l'esprit en même temps que je t'écoute. C'est justement, elle est construite de quelle manière ? Est-ce qu'on peut faire des rapprochements avec des langues latines ou des langues germaniques ?
Alors, c'est une langue qui est quand même profondément européenne. Où la personne qui l'a inventé, on pourra peut-être en parler un petit peu plus longtemps après, était quand même un Européen, et donc elle tire ses racines de mots de langue européenne. Donc il y a des racines qui sont germaniques, il y a des racines qui sont latines, d'autres qui sont romanes, et en fait c'est une langue qui est, si on parle un petit peu de grammatique ou de notions grammaticales, c'est une langue qui est agglutinante, donc comme l'allemand. On va rajouter des préfixes et des suffixes pour construire des mots différents.
D'accord. C'est ça qu'on appelle une langue agglutinante.
Tout à fait.
C'est ce principe-là.
Exactement. Ou en français, on n'a pas du tout ça, ou assez peu, mais l'espéranto est une langue qui est vraiment agglutinante. On peut prendre un exemple, on va très vite comprendre. Bon, ça se dit bona. Et mauvais, donc l'inverse, ça se dit malbona.
D'accord.
Donc mal, qui est le suffixe qui se rapporte à l'inverse. Et simplement, avec une racine, on a deux mots différents.
Ouais.
Et tous les suffixes et préfixes ont une signification qui viennent à complémenter le mot racine. Et donc à apporter
et lui donner un sens,
et donner un sens au mot.
Voilà.
Et donc ça permet, comme ça, donc c'est un exemple qui est très simple avec bon et mauvais,
mais
de réduire drastiquement le nombre de mots à apprendre, parce que les racines permettent de construire des mots autour. Et donc en lisant un mot, on peut très, très vite savoir sa classe grammaticale, parce que toutes les terminaisons des mots indiquent la classe grammaticale. Par exemple, tous les mots qui se terminent en O, sont des noms. Tous les mots qui se terminent en A sont des adjectifs qualificatifs.
D'accord.
En E, des adverbes.
Okay.
En I, des verbes à l'infinitif. Et donc, comme ça, en lisant le mot, on sait
dans quelle catégorie.
Exactement, on sait ce que c'est. Ouais, c'est un verbe, c'est un sujet, c'est un complément.
D'accord.
Et donc, ça permet d'apprendre facilement et aussi, du coup, de décliner ces mots pour, pour en faire un adverbe, pour en faire un adjectif, pour en faire un verbe. Donc ça permet, c'est vraiment, j'aime à dire que c'est un peu une mathématique, une logique.
C'est exactement ce que j'allais dire, moi j'allais utiliser le terme de logique. Mais
ouais, qui est très agréable. Ouais. C'est un jeu où en fait on se prend à dire bon bah en fait là j'ai la racine, je peux créer un adjectif, je peux créer autre chose. Et en fait j'ajoute un préfixe, j'ajoute un suffixe et le mot est différent. Ouais. Et en fait parfois on connaît pas le mot qui est face à nous. Par contre on connaît la racine, on connaît le préfixe, on connaît le suffixe et donc on peut déduire le sens.
D'accord.
Et donc ça rend l'apprentissage vraiment plus rapide. Il y a des études qui ont été menées. Comment sur le temps d'apprentissage qui est nécessaire pour apprendre l'espéranto et pour des francophones c'est pratiquement 10 fois plus rapide d'obtenir un niveau bac en espéranto qu'un niveau bac en allemand par exemple.
D'accord.
Pour l'anglais c'est entre 7 et 8 fois plus rapide.
Donc, y a des systèmes d'évaluation un peu comme il existe le cadre européen des langues
La même chose pour l'espéranto,
B1,
B2,
C1,
C2 en espéranto ça existe de la même façon.
D'accord. On a parlé donc de cette construction, de la façon dont tu as pris possession de cette langue et de sa construction. Si on fait maintenant un petit peu d'histoire, tu l'évoquais dans ta réponse, mais si on est un peu plus précis là-dessus, ça existe depuis quand l'espéranto qui a eu cette idée folle ou pas, mais en tout cas qui a eu cette idée.
Alors c'est un Polonais, alors les histoires divergent on va dire, mais c'est un Polonais qui habitait dans l'Empire russe, donc des Russes vont dire qu'il était russe, mais des Polonais vont dire qu'il était polonais. On est en 1870, donc les frontières sont un peu différentes que maintenant.
Que maintenant
Et donc ce Polonais, il habitait dans un ghetto à Varsovie. Et le ghetto, il était divisé en quatre parties, une partie russe, une partie polonaise, une partie germanophone et une partie juive, donc il parlait hébreu. Et ces quatre parties de ghetto, même de la ville de manière générale, ne se parlaient pas du tout, se voyaient comme des ennemis. Et il n'y avait aucun moyen d'échanger entre ces différentes parties. Et ça menait à des guerres fratricides entre habitants de la même ville.
Par incompréhension les uns par rapport aux autres.
C'est ça. Et donc lui, il s'est dit, mais en fait, c'est fou, il nous faut une langue qui n'appartienne à aucun de ces quatre groupes, parce que sinon, ça va être de l'appropriation culturelle, sinon l'un ne va pas vouloir apprendre la langue de l'autre. Il faudrait créer une langue qui soit neutre, et qui soit simple à apprendre pour faciliter la communication entre tous. Et il s'est mis en tête de créer cette langue.
D'accord.
Y a déjà eu dans le passé d'autres initiatives de création de langues construites, donc de créer une langue de toutes pièces. Et lui s'est mis en tête aussi de créer cette langue. Donc il a sorti un premier manifeste avec des règles selon lesquelles la langue pouvait évoluer ou ne pouvait pas évoluer, des règles grammaticales et une première série de racines de mots en espéranto.
Et à partir de là, un vocabulaire et une grammaire.
C'est ça, exactement. Et à partir de là, la langue a commencé à évoluer, où des personnes ont commencé à apprendre la langue donc, en première, au début en Pologne, puis en Allemagne, puis en France, puis partout en Europe, puis partout dans le monde. Et très vite, y a des associations qui se sont montées partout en Europe. De personnes qui voulaient apprendre l'espéranto, des congrès qui rassemblaient des Européens et même des personnes qui venaient de plus loin pour apprendre cette langue, pour l'enrichir, pour partager ce projet.
Juste une petite précision, parce que tu as parlé de son créateur, mais je ne suis pas sûr que tu aies donné son nom.
Oui, c'est Zamenhof.
D'accord.
Donc c'était un docteur, c'est un ophtalmologiste.
Ah, d'accord.
Qui n'est pas du tout linguiste, mais qui touchait à beaucoup de choses. C'est Zamenhof.
Et il a fait ça tout seul dans son coin, ou il a créé une équipe pour commencer à construire cette langue?
Alors, c'est un projet qui était au début personnel, qui est très vite devenu
un travail de
groupe, en fait, qui l'a assez vite dépassé, parce que les personnes ont commencé à ajouter du vocabulaire au fur et à mesure et à utiliser la langue. Et en fait, la meilleure façon qu'une langue se développe
déploie,
c'est simplement que les gens l'utilisent.
Bien sûr. Et alors justement, la question subsidiaire par rapport à ça, c'est aujourd'hui, est-ce que tu as une idée du nombre de locuteurs, ou en tout cas de personnes qui se sont appropriées cette langue dans le monde?
Ouais. Ouais, alors il y a plein d'estimations, certaines qui font très hautes et très basses, on va dire. Un chiffre qui est plus ou moins repris, ce qui serait entre 1 et 2 millions de personnes.
D'accord.
Qui ont parlé, parlent, savent utiliser la langue, mm-hmm. donc avec des niveaux de connaissances qui sont assez divers.
Mm-hmm.
Mais souvent, je mets ça en relation avec la Slovénie. En fait, la Slovénie, c'est 2 millions de personnes.
D'accord.
Et le Slovène, c'est à peu près 2 millions de personnes qui parlent cette langue. Donc, ça fait plus ou moins autant de personnes qui parlent le Slovène qui parlent l'espéranto.
Mm-hmm.
La seule différence, c'est qu'il n'y a pas un pays où tout le monde parle espéranto.
Ouais.
Mais par contre, partout où on va dans le monde, on peut trouver des personnes qui parlent espéranto.
Espéranto. D'accord.
Et donc, ce nombre de locuteurs, il a aussi grandement évolué à travers l'histoire.
Mm-hmm.
Où, à partir de 1870 et de la création de l'espéranto, ça a vraiment monté en flèche et une montée en puissance.
Mm-hmm.
Au début, par... Une partie plus aristocrate de la société, on va dire.
D'accord.
Mmh. Ensuite, a été très repris par les milieux ouvriers et notamment communistes, parce que ça participait aussi à l'international et au fait que voilà, la convergence des luttes, la révolution qui serait partagée dans tous les pays du globe. Donc ça a vraiment augmenté jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
D'accord.
Mmh. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que donc Zamenhof était juif et que pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fois du côté de l'URSS que du côté des nazis, les juifs étaient pas bien vus, l'espéranto étant créé par un juif. C'était la même chose, et donc les espérantistes ont été chassés et traqués,
poursuivis,
et donc le nombre de locuteurs a vraiment baissé
pendant la guerre.
C'est ça, pendant la guerre, et après a mis du temps, on va dire, à retrouver les niveaux.
Mmh.
Et là depuis on va dire les années internet, alors ça fait très très vieux de dire ça, mais depuis que la globalisation ou la facilitation des échanges intercontinents ont été vraiment facilité, il y a une recrudescence aussi du nombre de personnes qui parlent espéranto.
D'accord.
Parce qu'il y a cette volonté de pouvoir communiquer avec des Brésiliens, des Indiens, des Indonésiens.
Et alors, bon, évidemment, Monsieur Zamenhof n'est plus de ce monde, mais donc ça a été repris de génération en génération, notamment par les locuteurs, par ceux qui utilisent cette langue. Mais est-ce qu'il y a une dimension institutionnelle? Est-ce qu'il y a, je dis n'importe quoi, mais une organisation non gouvernementale ou une organisation internationale ou une association qui matérialise en termes, je dirais, d'institution cette langue?
Ouais, alors il y a deux niveaux, on va dire, d'association. Il y en a une qui est vraiment plus sur le côté linguiste et sur la langue en elle-même, qui pourrait s'apparenter à l'Académie française.
D'accord.
Qui est à peu près autant écoutée que l'Académie française.
D'accord.
Et qui a à peu près autant d'avance que l'Académie française.
Et c'est où? Il se situe où?
Alors, elle n'a pas de siège.
Ah, il n'y a pas de siège, d'accord.
C'est... Pour cette partie linguiste.
Mm-hmm.
Et donc, qui fait des propositions qui sont, on va dire, très datées, ou qui n'est pas du tout en avance sur son temps, et qui arrive bien après l'usage, où on pourra en parler, le décalage entre l'usage et ce qui est écrit, et qui est très différent, où il y a des mots qui sont utilisés entre jeunes, entre même moins jeunes, et qui sont moins admis.
Mmh.
Et donc il y a ce très fort décalage, on va dire. Donc là, c'est vraiment la partie linguistique. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est plus sur le mouvement espérantiste, ou sur les associations espérantistes de manière générale.
Mmh.
Et donc ça, c'est UEA, donc l'Universala Esperanto Asocio, qui elle est basée aux Pays-Bas.
D'accord.
Mmh. En même temps, il y a sa petite sœur qui est Teyo, qui est la même chose mais pour les jeunes.
D'accord.
Et donc là, c'est l'association mondiale des espérantistes, l'association mondiale des jeunes espérantistes.
D'accord.
Qui a comme pouvoir de gérer ce qui peut se passer dans le monde espérantiste, de s'accorder sur les différents congrès qu'il peut y avoir, sur les grandes décisions à prendre, mais qui n'a pas du tout un rôle normatif. C'est plus un rôle de gestion. Et donc voilà.
Ok, parfait. Mais écoute, merci beaucoup Gabin pour cette première partie d'émission et toutes ces informations et ces choses passionnantes autour de l'espéranto. Je te propose qu'on fasse une pause musicale, ainsi que je le propose aussi aux auditeurs, et on se retrouve dans quelques minutes.
Avec grand plaisir.
Bien, on se retrouve après cette petite pause musicale, toujours sur le thème de l'espéranto avec Gabin Forcier. Et on a discuté, ou en tout cas on a échangé sur l'espéranto et sa création et sa construction. Et donc la question qui vient logiquement derrière, c'est qu'est-ce que c'est qu'une langue construite ?
Alors une langue construite par opposition à toutes les langues qu'on connaît, le français, l'allemand, le chinois, c'est des langues qui ont évolué à travers le temps et qui sont parties d'une base latine, puis une base romane, puis qui ont évolué vers le français, mais c'est un processus qui prend énormément de temps. Mmh. Et une langue construite, c'est une personne qui à un moment donné dit, voilà, telles vont être les règles de la langue que j'invente. Mmh. Et donc, il y a un certain nombre de règles qui sont posées, un premier vocabulaire qui est posé, des premières racines qui sont posées. Et à partir de là, la langue va évoluer. Mais il y a une volonté de création de la langue par un être humain ou un groupe d'êtres humains. Mmh. Et donc, il y a une myriade de langues qui ont été construites.
Ah oui, alors c'était ma question qui me venait à l'esprit. Il n'y a pas que l'espéranto, finalement.
Non, il y a plein d'autres langues qui ont des visées, des fois, de très grande simplicité, d'utiliser un vocabulaire très restreint. On peut parler des langues qui sont aussi utilisées dans les séries, dans Star Wars, dans Game of Thrones, oui. Des langues qui sont construites aussi, et donc qui font appel à des vrais linguistes qui vont créer ces langues et qui après sont réutilisées, parlées par certains. Mm-hmm. Mais l'espéranto est la langue construite qui s'est le plus propagé et qui a le plus évolué, qui n'est pas la plus ancienne, mais qui est, on va dire, la langue qui...
En termes de langue construite, ce n'est pas la plus ancienne.
Non, il y a des langues qui sont vraiment plus anciennes que l'espéranto, mais qui n'ont pas du tout le même nombre de locuteurs. Mmh. Et donc maintenant, l'espéranto, c'est vraiment la langue construite qui est parlée par le plus de personnes à l'échelle mondiale.
Et donc, tu parlais tout à l'heure de la dimension sociologique de ceux qui me parlaient au départ l'espéranto, plutôt les aristocrates, et puis ensuite les ouvriers. Le monde ouvrier se l'est approprié. Aujourd'hui, qui parle cette langue, si on a toujours ce regard un peu sociologique ?
Je dirais qu'il y a des grands traits qu'on peut quand même retrouver. Le premier, c'est des personnes qui sont très attirées par les langues, qui parlent beaucoup de langues. C'est assez fou des fois de parler, d'être dans des dans des congrès ou dans des réunions avec d'autres espérantistes. Et donc moi, en parlant français, anglais et espéranto, je suis toujours la personne qui parle le moins de langues. Et des fois, il y a des personnes qui parlent 4, 5, 6 langues. Même une personne qu'on a coutume de dire qu'elle parle plus de langues qu'elle a doigts en comptant ses doigts de pied.
Ah oui, c'est vrai, c'est là.
Donc oui, il y a une première catégorie qui vont être les personnes qui sont très attirées par les langues, la linguistique, ce côté grammatical, et qui trouvent en l'espéranto un objet d'étude intéressant
original,
et qui très vite apprennent la langue. Donc ça, c'est une première catégorie. Une deuxième catégorie qui pourrait être des idéalistes ou des personnes qui sont très utopiques et qui pensent en ce projet comme étant une bonne solution pour faciliter la communication entre les peuples, pour atteindre une certaine paix.
Le monde, ouais.
Exactement. Et dont j'en fais un petit peu partie, qui m'a aussi attiré à cette langue. Une autre catégorie qui pourrait être des Européens convaincus. Mm-hmm. Et donc, parce que cette langue, donc c'est une langue internationale, mais qui est quand même. Qui a quand même été pensé pour d'abord l'Europe, on va dire, qui pense que cette langue devrait être la langue de l'Europe et faciliterait les communications à l'échelle du continent et vraiment qui est une solution.
Et surmonter un certain nombre d'obstacles dans la construction européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Exactement. Mmh. Et donc là, il y a aussi une catégorie de personnes. Et ensuite, il y a des ovnis des fois, comme moi par exemple, qui a fait une école de commerce, qui est très très rare dans les cercles espérantistes, où en général c'est plutôt des gens qui ont fait des facs de langue, ou qui sont très tournés vers les
très
langues,
littéraire.
Ou qui sont développeurs, ou qui ont du temps de leur côté, mais en général les personnes qui ont fait des écoles de commerce, c'est plutôt rare. mais du coup, on peut dire que c'est ces grandes catégories-là. Et après, en termes d'âge, aussi bien des jeunes que des moins jeunes, que
c'est intergénérationnel.
Il y a vraiment de tout.
Il y a aussi cette dimension dont tu parlais tout à l'heure en disant que, bon, bien sûr, l'espéranto, c'est une langue à vocation universelle, donc qui est transfrontière, et donc qui amène à la notion de voyage. Quel lien on peut faire entre l'espéranto et le voyage ?
Alors, le lien, il est très récent dans l'histoire de la langue, très vieux dans l'histoire de la langue, ou très vite après que l'espéranto s'est propagé. En fait, il y a une volonté de se dire, moi je parle l'espéranto en Pologne, moi je parle l'espéranto en France, je parle l'espéranto en Russie, j'ai envie d'aller rencontrer d'autres personnes qui parlent l'espéranto, et je ne peux pas le faire dans mon quartier ou autour de chez moi, parce qu'il y a peu de personnes qui parlent l'espéranto. Donc ça a été très lié au voyage. Et très vite, il y a des personnes qui ont traversé des continents pour rencontrer d'autres personnes qui parlaient espéranto. Il y a des histoires comme ça d'un espérantiste qui est parti de France en 1912. Donc on se rend compte que c'est pas le même monde dans lequel on vit.
Bien sûr, qui a
traversé en vélo jusqu'en Chine. C'est des choses qui maintenant nous paraissent possibles.
On
entend des personnes qui voyagent pendant un an et qui traversent des continents à vélo ou en stop. Mais en 1912,
ça relève de l'exploit.
C'est un monde qui est totalement abstrait pour des personnes qui vivaient à cette époque-là. Et donc il y a eu un lien qui est très très fort avec le voyage, et ça a même participé à créer Passeport à cerveau.
Qu'est-ce que c'est que ça, là?
Passeport à cerveau, c'est au départ un livre dans lequel il y avait des adresses de plein d'espérantistes partout dans le monde.
Ah, d'accord.
Et des numéros de téléphone, quand les numéros de téléphone sont apparus, mais au début c'était juste des adresses.
D'accord, c'est le début d'un réseau social finalement.
C'est le début d'un réseau social, mais ça a plus de 50 ans, même plus de 60 ans. Et donc il y avait des adresses de personnes qui parlaient espéranto et qui disaient, en fait, quand moi je suis dans ce livre, je suis prêt à vous accueillir pour une nuit, pour une semaine, et qu'on partage un bout de vie ensemble. Si vous êtes sur le voyage, si vous avez besoin d'un canapé, si vous avez besoin d'un lit, c'est possible. Et donc, facilement, ça a été possible de se déplacer d'espérantiste en espérantiste à travers le monde. Et donc maintenant, c'est plus un livre, c'est un site internet dans lequel il y a des numéros de téléphone et des adresses, toujours pareil. Et c'est possible de contacter les personnes en disant...
Effectivement, tu vas être diplômé aujourd'hui. C'est comme un réseau d'anciens ou d'alumni qui convergent, enfin en tout cas qui se retrouvent grâce à ce dénominateur commun. Qui soit celui d'un diplôme quand c'est un réseau d'alumni, et là c'est l'espéranto.
C'est ça.
C'est un peu l'esprit.
Exactement, et qui est là vraiment tourné vers. C'est ouvert aux voyageurs, et c'est gratuit. Et il n'y a aucune contribution qui est demandée. La seule contrepartie qui est demandée, c'est de parler espéranto.
C'est ça. Mais c'est le lien de solidarité, quoi.
Exactement. Exactement.
Ouais, alors ça s'appelle donc Passeport à cerveau.
Ça s'appelle Passeport à cerveau. Et donc moi, j'ai utilisé ça aussi quand j'ai voyagé. Forcément.
Et justement, alors tu parles de toi et de tes voyages. Comment tu l'utilises aujourd'hui, toi, l'espéranto ? Est-ce que tu le parles quotidiennement ? Est-ce que c'est une fois de temps en temps ? Comment tu l'utilises ?
Alors du coup, avant de répondre à tout de suite, je vais répondre il y a un petit peu de temps où en fait, je disais que j'ai appris l'espéranto et je suis parti en voyage. Donc je suis parti pendant 6 mois faire le tour de l'Europe en stop pour rencontrer des gens qui parlent espéranto. Mm-hmm. Et l'objectif, c'est d'en faire un documentaire qui n'est pas encore sorti, mais sur le point de sortir.
Tu nous le diras, on fera l'information sur... On fera la pub sur Radio Giraffe.
Eh ben merci beaucoup. et donc, pendant ce voyage, moi, ça m'a permis vraiment de continuer à apprendre cette langue, d'échanger avec des espérantistes pratiquement quotidiennement, parce que j'étais, alors pas que avec des espérantistes sur tout mon voyage, mais en grande partie, où j'ai dormi plus de la moitié du temps chez des espérantistes. Mm-hmm. Et participer à un certain nombre d'événements tout au long du trajet. Et donc là, j'ai vraiment pu parler espéranto pratiquement tous les jours. Et depuis le retour, donc là, je me suis impliqué dans l'association des jeunes espérantistes français, mm-hmm. Où je suis maintenant président de cette association.
Ah oui.
Et donc, j'utilise l'espéranto, alors pas de façon quotidienne, mais de façon assez régulière, mm-hmm. Parce qu'on organise des événements, parce qu'il y a des liens à faire avec d'autres associations d'espérantistes de d'autres pays,
ouais.
Et donc, peut-être pas quotidiennement mais plusieurs fois dans la semaine j'utilise l'espéranto, quoi.
D'accord. Par rapport à cette question-là, c'est ce que tu disais d'ailleurs aussi tout à l'heure. L'espéranto a connu dans son existence, si je puis dire, des fluctuations depuis son point de départ, donc au 19e siècle, avec une baisse liée à la Deuxième Guerre mondiale et ensuite un redémarrage progressif. Aujourd'hui, quand tu regardes l'espéranto avec ton regard de spécialiste maintenant, quel avenir tu prédis pour l'espéranto ?
Alors, au sein du milieu espérantiste, on va dire ça comme ça, il y a deux courants de pensée très forts qui s'affrontent ou au mieux cohabitent. Mm-hmm. Le premier étant la fina venco. Donc la fina venco, c'est la victoire finale. Mm-hmm. C'est pas très joli comme ça,
ouais.
mais ce qui veut dire que au bout d'un certain moment, tout le monde parlera espéranto et sera la langue utilisée. Alors l'objectif, c'est pas que cette langue remplace toutes les autres langues, mm-hmm. mais soit apprise comme deuxième ou troisième langue,
ouais.
partagée mm-hmm. par tous, et qui puisse faciliter la communication.
Exactement.
Mm-hmm. Donc ça, c'est un premier courant de pensée, on va dire, et un deuxième courant de pensée qui est de dire, en fait, l'espéranto restera à jamais un objet...
Un peu singulier.
C'est ça, un peu singulier, qui fonctionne,
ouais.
mais qui ne rencontrera jamais le public de manière,
oui,
de manière comme universelle.
Comme l'anglais, qui est devenu une forme de langue universelle que chacun s'approprie, notamment pour faire du business, et en ayant transformé un peu cette langue, une espèce de globiche où l'anglais est plutôt malmené, mais on essaye de se faire comprendre avec, quoi. Voilà.
C'est ça. Et donc il y a
ces deux courants de pensée.
C'est ça, il y a ces deux grands courants de pensée. Alors... j'ai du mal à me positionner sur la première. J'ai du mal à me positionner sur la première option où tout le monde parlerait espéranto un jour, même en deuxième ou troisième langue. Je pense plutôt que c'est un formidable outil, comme il en existe plein, pour rencontrer des gens, pour voyager, pour partager des valeurs européennes avec d'autres jeunes partout en Europe avec nous et se rendre compte qu'au final, on a une existence qui est assez proche et on partage les mêmes sujets et on partage les mêmes craintes et on est beaucoup plus proche qu'on pourrait nous le faire penser.
Mm-hmm.
Et l'espéranto est un outil comme pourrait être au voyage, comme pourrait être Erasmus, comme pourrait être plein d'autres, plein d'autres outils pour comprendre ça. Et donc je dirais que je me suis dit plutôt ici, quoi.
D'accord. Écoute, on arrive tout doucement à la fin de notre entretien passionnant. Évidemment, tu ne vas pas y échapper. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots en espéranto et puis les traduire ? Parce que voilà, malheureusement, on ne possède pas tous l'espéranto et on ne comprend pas forcément.
Oui, bien sûr. Mi povus diri que saluton mi estas Gabin kaj nun ni registras iun intervjuon pri mia vojaĝo tra Eŭropo. Kaj mi vere dankas vin pro la invito en tiu podcasto, kaj nun estas la fino de tiu varbado pri Esperanto. Donc, je me suis présenté rapidement en disant mm-hmm. que que j'étais interviewé par toi aujourd'hui dans le cadre d'un podcast et comment que je te remerciais pour cette invitation et que j'avais fini ma petite tirade en espéranto.
c'est curieux à écouter parce qu'on a des intonations effectivement qui viennent un peu de partout. On a l'impression que c'est un peu d'italien, mais que c'est aussi un peu d'allemand, que c'est un peu de... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement cette universalité, ou en tout cas c'est une universalisation de cette langue, on la ressent dans l'écoute.
Et souvent, ce qui est drôle, c'est que du coup, on voyageait un petit peu en Europe. Souvent, il y a cette question de « est-ce que tu peux me dire quelques mots en espéranto ?»
Ouais.
Et en fait, la langue que vont citer les personnes sont toujours des langues qu'ils ne connaissent pas.
Ouais.
Ou des Allemands, quand j'étais en Allemagne, ils m'ont dit « ah, ça ressemble à du portugais
ouais. ».
Et quand j'étais en Espagne, « ah, ça ressemble à de l'allemand
».
Et c'est toujours le « ok, je connais des choses, je comprends des choses, mais ça me semble plutôt une langue que je ne connais pas
».
Et du coup, c'est vraiment ce mix de toutes les langues européennes qu'il peut
c'est
y
ça.
Avoir. Donc ouais, tu l'as très bien résumé.
Écoute, merci beaucoup Gabin. Alors, comme à l'accoutumée, on pose cette question à tous nos invités dans nos émissions. Ma toute dernière question, c'est de savoir quelle girafe tu penses être.
Eh bien, je dirais une girafe qui cueille des feuilles d'eucalyptus ou autres, parce que je me nourris de plein de choses différentes, notamment l'espéranto, mais d'autres sujets aussi. Et j'aime bien les picorer comme ça, à droite, à gauche, des sujets qui m'intéressent. Donc j'ai cette image de la girafe
qui va aller chercher
des feuilles pour se nourrir.
Donc tu as faim de plein de sujets, plein de projets, dont celui de l'espéranto.
Exactement.
Très bien, merci beaucoup pour ta réponse, merci pour cet entretien, Gabin, et d'avoir consacré un peu de temps à mon émission. Il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir accepté ce rendez-vous. Je rappelle que je recevais donc Gabin Forcier, diplômé de l'EM Normandie, très engagé sur les questions de transition écologique, mais aussi, comme vous l'avez compris, spécialiste et locuteur de cette langue extrêmement intéressante qu'est l'espéranto. Merci à tous de nous avoir suivis dans le cadre de mon émission Autour d'eux. Vous pouvez, comme vous le savez, retrouver toutes nos émissions en podcast sur le site radiogirafenormandie.fr, nous écouter via l'application Radio King, et je vous rappelle que vous pouvez également adhérer et devenir membre de notre association Radio Girafe via le site de Radio Girafe Normandie. Vous êtes bien sur Radio Girafe Normandie, je suis Frédéric, le F de Girafe, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à tous, merci Gabin.
Merci à toi.